capitale de Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, au Kassai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Radio Capi qui vous propose Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Le 25 mai de chaque année, le monde célèbre la journée de l'Afrique. C'est l'occasion de réfléchir sur les différentes politiques initiées par l'Union africaine depuis sa création dans la gestion des crises politiques en Afrique. La RDC, pays membre de l'Union africaine, a connu et connaît encore une crise politique dans laquelle l'Union africaine est impliquée pour trouver des solutions. Quel regard portez-vous sur la gestion de cette crise par les instances de l'Union africaine et d'autres organisations régionales et sous-régionales? Notre standard est déjà ouvert au 081-890-4969 pour vos interventions en direct. Le débat se déroule également sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Jean-Claude Tiala est à la mise en œuvre de ce magazine. Nico Kalambay est à la réalisation. J.R. Lungembo est à la coordination. Et Pierrot Elamenji vous le présente sous la supervision de Martin Sebujango. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
L'Union africaine, qui est une organisation panafricaine qui a succédé à l'Organisation de l'Unité africaine, créée le 25 mai 1963, est née officiellement le 9 juillet 2002 au sommet de Durban en Afrique du Sud et a son siège à Addis Abeba en Éthiopie. Plusieurs objectifs sont poursuivis par l'Union africaine. Nous avons quelques-uns ici, comme réaliser une plus grande unité et solidarité entre les pays africains et entre les peuples d'Afrique. Défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de ses États membres, accélérer l'intégration politique et socio-économique du continent, promouvoir et défendre les positions africaines communes sur les questions d'intérêt pour les continents et ses peuples, mais aussi favoriser la coopération internationale en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais nous allons nous focaliser sur le point F qui est la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur les continents. C'est dans ce cadre que nous faisons les points sur les différentes missions de l'Union africaine déployées en RDC par rapport à l'histoire du pays ainsi que les différentes crises politiques que le pays a connues. Comment et quel regard vous portez sur le travail abattu par l'Union africaine dans les différentes crises qui ont émaillé la vie politique en RDC? Le standard est déjà ouvert. Et Maître Gaston, vous êtes avec nous ici à Kinshasa. Merci de nous avoir contacté pour cet échange. Bonjour Maître Gaston.
Merci, je vous salue aussi, Pierrot.
Voilà, pour vous, quel regard vous portez sur le travail abattu par l'Union africaine dans la résolution des différentes crises qui ont émaillé la vie politique en RDC?
Oui, mais il faut pas ignorer que sur ce plan-là, il y a vraiment les conseils de sécurité qui est mieux placé pour ça. Vous savez, l'Union africaine, c'est une organisation régionale, dans le sens universel de terme, qui concerne l'Afrique, Et puis, il y a un volet dans ce sens-là où on accorde la responsabilité à cette organisation de pouvoir participer à la prévention, ou soit au rétablissement, les trucs comme ça de la paix lorsque c'est troublé. Mais nous remarquons ça, c'est pas remarqué, mais par rapport à l'histoire, il y a seulement le Conseil de sécurité qui est le maître d'action en RDC depuis les événements qui ont eu à passer ou à troubler lors de la sécurité internationale sur notre territoire. On a vu le Conseil de sécurité intervenir, mais on sait voir aussi l'Union africaine intervenir, par exemple dans des dimensions de résolution pacifique des conflits. Mais sur les plans économiques, par exemple, il y a des actions, mais vous savez que la communauté internationale aujourd'hui, c'est l'ONU. C'est l'ONU, il y a l'Union européenne aussi. Mais quand même, c'est une organisation qui vit tant soit paix, qui qui peut faire ce qu'il. Mais je vois les autres, c'est pas même le dire que il faut l'argent, c'est l'Europe qui soutient cette organisation, qui finance. Non, mais l'organisation existe, mais sa vie au dépend de ce que les États contribuent.
Alors, vous estimez, oui. Maître Gaston, vous estimez que c'est plus les actions qui sont menées par les conseils de sécurité qui sont assez visibles dans la situation de crise en RDC. Merci beaucoup, Maître Gaston. Jean-Claude, vous êtes à Kindu. Nous avons fait l'émission la semaine passée sur la restructuration de l'Union africaine, mais pensez-vous aujourd'hui, vous avez quand même un certain regard à ce qui a été fait. On a vu dernièrement, l'année passée, l'Union africaine dépêcher un médiateur ici en RDC pour la résolution de la crise. Alors, quel regard vous portez sur les missions, les initiatives de l'Union africaine dans notre pays, Jean-Claude?
Oui, merci très cher Pierrot de me rendre la voix au chapitre. Pour ce qui concerne votre question, mon regard est un peu négatif. Dans le sens que lorsque j'ai essayé d'interroger l'histoire depuis 1963, date de la création des Nations Unies africaines, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est difficile qu'on ait un bilan positif dans la mesure où l'Union africaine elle-même n'est pas, elle ne se justifie pas dans le sens au moins financier. Et comment se fait-il que nous avons déjà, et beaucoup, dans par des cas, les dirigeants africains sont les dirigeants qui sont au moins, qui constituent au moins un syndicat, hein, un syndicat de présidents qui sont des dictateurs. Et quand il y a un problème, ils se disent dans les couloirs que non, il ne faut pas le faire, peut-être nous allons protéger tel ou tel. Vous voyez, bien sûr, vous m'avez parlé d'Eden Kodjo qui était venu, mais vous êtes sans savoir que Eden Kodjo était à un moment donné réquisé par une grande partie de la communauté nationale, sinon communauté internationale. Mais vous avez vu comment, juste il y a que la majorité présidentielle et juste une petite phase de la société civile qui soutenait Eden Kodjo. Tout ça, c'est tout simplement vous dire que non, le regard est mitigé, l'Union africaine ne fait pas son travail comme il se doit, Pierrot.
Merci beaucoup. Mais vous auriez aimé que l'Union africaine fasse quoi au-delà? Vous avez évoqué ici l'exemple de la crise récente avec la nomination de l'ancien premier ministre togolais Dem Kodjo pour les discussions. Alors, il a été récusé par une frange de l'opposition. Et pour vous, c'est difficile aujourd'hui d'évaluer en termes positifs l'action de l'Union européenne dans la crise en RDC. Mais alors, qu'est-ce que vous auriez souhaité voir l'Union européenne et africaine faire qui n'a pas été fait, Jean-Claude? Voilà, des petits soucis. On a perdu Jean-Claude Dekindou. On est à Lubumbashi avec vous, Maître de Sonville. Vous êtes acteur politique de l'opposition. Et quel est le regard que vous portez dans l'histoire des différentes crises politiques dans notre pays avec les actions menées par l'Union africaine selon sa mission?
Monsieur Pierrot, bonjour. Bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Okapi. C'est-à-dire que la mission qui a été dévolue à l'Union africaine, elle était louable. Mais malheureusement, l'Union africaine n'a pas pu matérialiser cette mission qui lui a été dévolue. C'est-à-dire qu'il y a un très sérieux problème au niveau de l'Afrique. Surtout l'Afrique centrale est en ébullition. Ça chauffe. Il y a des guerres civiles partout. Il y a la paix qui est entamée. Or, la mission qui a été dévolue à l'Union africaine, c'est la stabilisation, la paix et la sécurisation des pays. Mais il y a des conflits entre des pays. Alors, à ce moment-là, nous disons que l'Union africaine a échoué. L'Union africaine n'est plus même crédible. Vous venez de parler de Dem Kodjo ici, le médiateur qui est envoyé par l'Union africaine. Mais ce médiateur a été contesté. Il n'était plus crédible auprès d'une grande majorité de l'opposition. Ce qui remet en cause l'Union africaine. Vous suivez la situation au Burundi. Il y a eu l'ancien président tanzanien qui est allé là-bas. Il a été encore récusé. Et d'ailleurs, l'Union africaine connaît des sérieux problèmes par rapport aux finances, puisque les finances sont à charge de l'Afrique du Sud. Vous voyez que c'est une charge qu'un seul pays ne peut pas résoudre. Et l'Union africaine, des fois, recourt à d'autres organismes continentaux pour le financement. Alors, à ce moment-là, l'Union africaine, en commençant par cette organisation-là, elle n'est pas autonome. Alors, lorsqu'elle n'est pas autonome, elle va subir des décisions qui viendront de la part des organismes internationaux qui lui ont donné l'argent. Vous comprenez un peu. Puisque, si nous citons le problème de Sénabré, qui a été jugé au niveau du Sénégal, c'est suite à la pression de la Belgique. Puisque la Belgique donne l'argent, l'Union européenne donne l'argent. Alors, aussi longtemps que nous avons une organisation qui n'est pas autonome financièrement, Mmh. Au-delà de ça, il y a eu aussi l'organisation d'un parlement africain. Ce parlement n'a jamais fonctionné, puisque c'est à ce parlement que devait être prise de grandes décisions par rapport aux chefs d'État qui sont en train d'enfreindre, de tripatrouiller les constitutions de leur pays. Et insister surtout sur la modalité de mandat présidentiel de 5 ans une fois renouvelable. Mais ce parlement-là est toujours de non. Il n'a jamais été constitué. Alors, vous voyez, tout ça pourquoi? Puisque les idées de nos présidents africains sont les idées telles que lorsqu'on est au pouvoir, on ne voudrait pas arriver à respecter la constitution, le mandat qui est reconnu dans la constitution. Aussi longtemps qu'il y a cette protestation-là, il y a une frustration maintenant dans les chefs des opposants, il n'y aura jamais la paix. Est-ce que, M. Pierrot, c'est vous qui posez les questions? Moi, je voudrais vous demander, où est-ce que l'Union africaine avait envoyé un médiateur et qu'aujourd'hui, il y a eu la paix? Nulle part. Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il a fallu que le Congo recourt à la MONUSCO. À la MONUSCO qui n'est autre que une démarche de l'ONU pour peut-être mettre un terme à la guerre d'invasion. Mais malgré cela, aujourd'hui nous vivons au Congo en RDC. Les libertés fondamentales sont entamées. Mais où est l'Union africaine?
Alors, vous auriez aimé voir, mais il y a quand même par rapport à la situation au Kassai, où on se rappellera qu'il y a eu un communiqué conjoint, c'était l'Union africaine, l'OIF et d'autres organisations qui s'étaient levées pour condamner les massacres et tout ce qui est les tueries qui sont survenues. Mais Maître Sonville, globalement, vous auriez aimé voir l'institution Union africaine au devant de la scène, que ça soit dans la condamnation quand il y a par exemple des crimes, hein, mais aussi les cas d'instabilité politique. Et vous avez évoqué deux exemples de médiateurs de l'Union africaine récusés dans des pays, en l'occurrence la RDC et le Burundi, et ça fait problème. Et tout ça vient du fait que l'institution elle-même n'est pas assez indépendante. C'est pourquoi nous avions réfléchi ensemble la fois passée sur la question de la réforme, n'est-ce pas, de l'Union africaine. À Kananga, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons, Maître Adrien. Merci d'être avec nous. Alors, pensez-vous, dans l'histoire politique de notre pays, quand on a vu les soubresauts de toutes les crises à partir de 1998 jusqu'en ce moment, est-ce que l'Union africaine n'a-t-elle pas eu des actions qui ont pu répondre à son mandat dans la recherche de la stabilité, des solutions pour permettre à ce que le pays sorte des troubles et connaisse une stabilité certaine, Maître Adrien?
Oui, bonjour Thierry et la Meiji, bonjour à tous les amis auditeurs. Je pense que depuis 1998, comme vous l'avez dit, c'est vrai, il y a des actions qui sont posées par l'Union africaine, mais ces actions-là sont fragiles. Ces actions-là ne répondent pas à la philosophie et même à la mission de l'Union africaine. Parce que ce que je suis en train de voir depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui, c'est une Union africaine qui intervient encore après avoir subi les événements. C'est-à-dire l'Union africaine qui vient après des critiques, après l'intervention des autres organisations internationales, l'Union européenne, la communauté internationale. Voilà comment est-ce que l'Union africaine agit. Deuxièmement, comme je le disais à vos parties, la difficulté avec l'Union africaine est que nous n'avons pas de leadership exemplaire. Ceux-là qui se mettent en avant-plan en respectant d'abord les règles démocratiques.
Maître Adrien, on a des petits soucis, hein. On a des petits soucis avec votre ligne. Si peut-être on pourra vous recontacter ou vous déplacer un tout petit peu, parce que de moins en moins on vous suit. Mais vous estimez que la fragilité des actions de l'Union européenne vient du fait que l'Union européenne subit les événements et ne défense pas les événements. C'est le cas par exemple de la RDC où il y a eu des interventions, mais qui sont fragiles parce qu'il y a aussi cette histoire. Vous avez évoqué la question de la faiblesse des leaderships, mais dommage que la ligne s'est détériorée entre Kinshasa et Kananga. En attendant, nous allons en Bandaka. Maître Bita, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, M. Pierrot. C'est pour moi un plaisir de retrouver mes amis de la parole des auditeurs et vous, vous-même, les journalistes.
Merci beaucoup, maître.
Merci, M. Pierrot. Je reviens sur... malheureusement, les précédentes interventions ont vidé la puissance de mon intervention, mais néanmoins, je ne manquerai pas de placer un mot en disant que l'Union africaine aujourd'hui, en rapport avec les conflits de notre continent, se présente aux parents pauvres. Mes amis ont cité les exemples de Burundi et de la RDC. Et Ben Koto qui est passé par ici et qui n'a pas pu maîtriser les actes politiques congolais. Et il fallait que la 50 intervienne pour obtenir un peu l'inclusivité autour du débat politique qui caractérise notre pays. Un parent pauvre, je l'ai dit, l'Union africaine n'a pas de moyens. L'Union africaine, à l'instar de l'Union européenne, par exemple, et d'autres organisations internationales qui maintiennent l'ordre, le fonctionnement, le bien-être de leur population. Nous constatons malheureusement, pour le cas de l'Union africaine, c'est vraiment une responsabilité qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, nous sommes dans un conflit qui, dans une certaine mesure, est entretenu par l'Union africaine à travers le médiateur qui l'a envoyé au Congo. Et Ben Koudé, je cite, de triste mémoire. Monsieur Pierrot, nous devons revoir. Les États africains doivent revoir l'organisation de l'Union africaine pour que les solutions des problèmes des Africains soient trouvées. Donc il est la conséquence des leaders politiques, le leadership qui conduit les États africains. Aussi longtemps que nous n'avons pas pris conscience, les Africains, le Congo, le Burundi n'ont pas pris conscience du bien-être, de son bien-être propre, sans l'intervention, sans l'ingérence des États occidentaux, nous allons tourner en rond. Nous allons tourner en rond parce que ce n'est pas les États-Unis ou la France, Macron ou Trump qui viendront de trouver solution pour les problèmes africains. Donc, c'est vraiment une maladie.
Alors, à ce niveau-là, en fait, vous auriez souhaité, Maître Bita, c'est presque ce que disait tout à l'heure notre ami Adrien de Kananga, que l'Union africaine vient après, et vous estimez que le rôle joué dans la désignation du médiateur, par exemple, pour le cas de la RDC, ça n'a pas résolu le problème, on a dû recourir à la CENCO, et tout ça, pour vous, c'est parce que l'institution elle-même n'a pas assez de moyens, elle doit dépendre de financements extérieurs. Quand on a évoqué la question de la réforme la semaine passée, c'était exactement autour de toutes ces questions des finances. L'Union européenne africaine a estimé qu'il faut, par exemple, une taxe qui doit permettre à ce que l'institution soit financée et comme ça avoir une certaine indépendance sur les plans financiers. Merci beaucoup, Maître Bita. Eric, vous êtes à Likasi. Merci d'être avec nous. Eric, bonjour.
Bonjour la radio Papi, bonjour aussi à tous les intervenants et nous aussi également. Moi je prie pour un peu parler à notre sujet. Je prends l'exemple de Issenabré, je prends aussi l'exemple de Yaya Djamé. J'ai vu que les affaires de ces deux pays ont été résolues par l'affaire de l'Union africaine. Et maintenant nous, par rapport au point F qui fait l'objet de notre échange aujourd'hui, il y a quelques traits que nous devons maintenant résoudre. Est-ce que le pouvoir, parce que même cette unification des pays africains, ils ont un droit, parce que nous disons nous sommes légitimes, nous sommes souverains. Donc même si notre souveraineté, nous dépendons vraiment aussi par la coalition de tous les pays membres qui devront s'y figurer. Mais si nous appelons, nous interpellons à l'Union africaine, s'ils prendraient le même mise sur notre pays, sur les affaires pour résoudre l'affaire économique, l'affaire financière, comme vous l'avez dit, il y a pas ça, la crise vraiment que la communauté européenne, la crise sociale, qui n'est pas vraiment à la hauteur de tous les humains qui ont mis les pensées. Aujourd'hui, ils disent, eux, l'Union africaine, ils commencent à penser, l'Union européenne, vous voyez, c'est sûr que des pays qui viennent nous secourir, comment nous devons nous prendre, mais la légitimité dépendrait par l'Union africaine. Mais où est-il? Parce que nous n'avons pas le rôle légitime qu'il tenter de jouer sur le bas de notre pays, la RDC. Mm-hmm. Parce que beaucoup de points sont en faillite. Et nous ne savons pas par où danser. Donc nous appelons. Parmi les points, on a parlé de la négociation, comme nos amis nous viennent de le dire. La négociation parmi les autorités congolaises, la France a fait mal à l'ONU, mais l'autre, on a refusé, l'autre, jusqu'à ce qu'on a évité la CEP. Jusqu'à ce que les autres ne sont pas mis en application. Donc, il fallait que l'Union africaine prenne ses dispositions et tente qu'il commande une organisation de pays africains et légitimes et souverains.
Et voilà, merci beaucoup. Et surtout quand vous avez évoqué la question de la légitimité, vous aurez aimé que les crises, par exemple, qui surviennent en Afrique, comme la RDC par exemple, l'Union africaine pourrait avoir toute la légitimité d'intervenir, de trouver des solutions, de proposer des pistes de solutions, plutôt que de subir quand c'est l'Union, les États-Unis, les Nations Unies ou bien l'Union européenne qui a déjà agi et l'Union africaine vient après. Est-ce que c'est ces regards que porte aussi Sylvain qui est à Bounia? Sylvain, nous faisons le point aujourd'hui sur les regards que vous portez sur les actions menées par l'Union africaine dans la résolution des crises dans notre pays, par exemple. Les amis sont revenus sur le fait que le médiateur qui a été nommé dans un passé récent a été récusé. Est-ce qu'on peut juger ces actions, ces initiatives uniquement par rapport à l'événement récent d'Edem Kodjo qui a été récusé dans la résolution de la crise politique en RDC? Sylvain, bonjour et bienvenue.
Pour m'avoir associé à cet échange, s'il faut directement répondre à cette question, il faut d'abord dire que le médiateur dont on fait allusion aujourd'hui, M. Edem Kodjo, a été nommément récusé au Burundi. Je crois que l'histoire l'a rattrapé très chez nous au Congo. Mais j'ai récusé, je commence d'abord par quelque part, et surtout par certaines observations. Il y a des auditeurs qui ont parlé avant moi, ils parlent de questions de moyens qui n'existaient pas pour l'Union africaine. Il parle aussi de l'irresponsabilité des acteurs. Il parle aussi du mauvais leadership. Eric Delicacy a cité un certain nombre de cas. Le cas du Sénabé de Agamé, pour lequel aujourd'hui, tous les biens risquent d'être confisqués à tant qu'un ancien président. Donc, M. Gérard, allez-y comprendre que, comme je l'ai dit dans une petite émission récente, toujours sur l'Union africaine, à ce moment-là, nous étions en train de changer sur
la réforme.
Les réformes qui s'imposent, oui, les réformes qui s'imposent à l'organisation. À l'époque, je disais que l'Union africaine, c'est pratiquement un conglomérat de méchants et des hypocrites. Des hypocrites, pourquoi? Puisque moi, je voudrais que nous puissions aujourd'hui, lorsqu'on dit, on parle de la mission, des rôles, ou soit des objectifs, oui, la trilogie du management aujourd'hui impose qu'une organisation définisse clairement trois grands éléments. Le premier élément, quels sont les objectifs à réaliser? Ça veut dire, de cet élément-là, on tire le sens. Hein, voyez-vous, le sens, donc, l'être de l'organisation. Mm-hmm. Deuxième élément, qu'il faille bien définir, quelle est la vision? Ça veut dire, avant 1963, peut-être que certains États étaient en train d'évoluer en solo. Les États ont dit, nous voulons maintenant nous mettre ensemble. Où est-ce que nous voulons aller? Où voulons-nous amener notre peuple par rapport aux organisations qui existent? Je cite l'ONU. Je cite encore l'Union européenne. Et peut-être aussi les autres gouvernements en Asie. Puisque aujourd'hui, il est clair dans la définition des visions des organisations, il y a une question qui tend à définir l'identité d'une entité quelconque. Et ici, je parle de l'entité Union africaine. Le troisième élément, M. Gér, que les gens doivent comprendre, en 1963, lorsqu'ils se sont réunis le 25 mai, ces chefs d'État africains devraient mettre en place correctement quelle est la mission que nous nous assignons, nous, chefs de l'État, par rapport à notre continent? Où voulons-nous amener ce continent demain? Aujourd'hui, la fois passée, je vous avais bien dit cela, c'est que la gestion du monde est faite à travers une vision de la gouvernance mondiale des États. Ça veut dire, on est en train de dépasser les questions de gouvernance frontalière. Tout le monde, avec la conférence politique actuelle, les gens veulent aller clairement vers les règlements internationaux des questions vitales des peuples. Mais l'Afrique, à travers son organisation juridique que nous appelons l'Union africaine, est-ce qu'elle apporte un petit plus dans la jubilation de la vie internationale? Moi, j'ai parié à mon avis qu'aujourd'hui, ces chefs d'État doivent s'arrêter un instant pour dire, et là, chacun, M. Joseph Kabila, M. Paul Kagame, Museveni, où sommes-nous? Est-ce que dans les règlements des conflits internationaux, dans les règlements des conflits régionaux, qu'apportent nos États? Qu'apporte l'Afrique? Donc, je veux dire ici que si nous regardons correctement la charte de l'Union africaine, je n'ai pas le temps de décortiquer ça dans cette émission, les 60 ministres sont trompés. Nous nous disons que nous sommes à la contre de la vision et de la mission des objectifs que nous sommes assignés. Pourquoi? Vous-même, vous les raconterez dans l'expression et l'opinion des auditeurs qui viennent de parler devant moi. Edem Kodjo arrive au Congo, dit qui ne veut pas aller avec nous, nous disons avec ceux qui veulent aller avec nous. Mais ça, c'est quel type de médiation? On prend parti et directement, on est réquisé. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, l'Union africaine doit copier de bons exemples, puisque si vous suivez l'exemple de ce qui se passe entre l'Union européenne maintenant, messieurs, je me permettez que j'en parle un peu.
Allez-y, rapidement,
les
rapidement.
Les États se retirent de l'espace Union européenne. Les États se retirent de l'espace de l'Union européenne, puisqu'ils ne trouvent pas leurs intérêts dans la gestion de l'Union européenne. Les autres peuvent entrer. Et chez nous, c'est un conglomérat de gens qui sont soudés par des intérêts égoïstes de quoi. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. C'est le mal, puisqu'on doit avoir un petit soutien, même dans le mal, on est là, alors je dis...
Et c'est ça l'importance de cette réforme.
On n'a même pas la vision, ni l'objectif, ni la mission, on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait, et je crois
voilà.
Que l'Union européenne doit vraiment refaire.
Voilà, c'est l'Union africaine. Déjà... Ça, à ce niveau-là, effectivement, Sylvain, vous estimez qu'il faille à un certain moment que les leaders africains s'arrêtent pour dire nous allons dans quelle direction, est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui de répondre aux objectifs, à la vision et à la mission, tout cela est bien coulé au niveau de la charte, j'ai évoqué deux points, si nous prenons par exemple le point F et le point G en ce qui concerne les objectifs, le point F parle de la promotion de la paix, de la sécurité, de la stabilité sur les continents. Le point G parle de la promotion de principes des institutions démocratiques, la participation populaire et la bonne gouvernance. Voilà, ce sont les éléments majeurs, les éléments clés. Ça a été évoqué par Maître Sonville. Et on estime que c'est à ce niveau-là, même quand il faut mener des actions de médiation comme dans notre pays, tout doit partir de ces principes. Félicien et Étienne, vous gardez la ligne 081-890-4969. C'est pour intervenir en direct dans cette émission consacrée au regard que vous portez sur le travail de l'Union africaine dans les différentes crises qui ont émaillé la vie politique en RDC.
Congolaises et Congolais, l'enrôlement des électeurs tire à sa fin. Allez-y vite vous faire enrôler dans le centre d'inscription de la CENI, le plus proche de votre maison, dans votre commune ou dans votre groupement.
Qui est concerné par l'opération de la révision du fichier électoral?
Se faire enrôler pour les élections concerne toutes Congolaises et Congolais vivant au pays ou à l'étranger en âge légal de voter. Il s'agit de vous si vous avez plus de 18 ans. Vous avez 16 ans, vous aurez 18 ans en 2018, alors allez-y aussi vous faire enrôler.
J'ai ma nouvelle carte d'électeur, je voterai. Et toi?
Parole aux auditeurs.
Félicien, vous êtes avec nous à Kinshasa. Merci de nous avoir rejoints dans cet échange. Bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi et bonjour à l'invité Sierra.
Voilà, vous avez suivi les uns et les autres. Beaucoup de personnes estiment que le rôle joué, par exemple, par l'Union africaine dans la résolution des crises dans notre pays, c'est pas assez bien défini ou c'est une question d'absence d'information ou on devrait quand même avoir des actions d'envergure menées pour répondre quand même à ces objectifs de l'Union africaine quand il y a une crise comme celle qui touche la RDC.
Oui, mais merci Pierrot. Mais avant de parler de la crise dans notre pays, mais il faut d'abord savoir si l'Union africaine a joué des rôles depuis qu'il est créé et dans quelles conditions il fonctionne et dans quelles conditions il a été créé. Moi, je pense que les Africains, ils veulent imiter les Occidentaux, mais ils n'ont pas les mêmes valeurs que les Occidentaux. Quand vous prenez l'Union européenne, il est basé sur des valeurs universellement reconnues de la gestion des États. Et c'est la bonne gouvernance, c'est le respect des droits de l'homme, c'est l'éthique, la morale et tout ça. Et c'est sur la base de ça que tous ces pays-là s'alignent pour gouverner chacun son pays et puis ensemble ils peuvent faire quelque chose. Mais ici chez nous, vous voyez bien que les gens qui sont hétérogènes, ils ne peuvent pas se mettre ensemble pour trouver une solution. Parce que si quelqu'un, par exemple, a violé sa constitution, il ne veut pas quitter le pouvoir, tout ça, il y en a encore autour de lui, 5, 6, et ils sont tous ensemble. S'il y a des 4, 5 aussi qui sont en train de respecter la démocratie chez eux, comment vont-ils prendre la décision contre celui qui ne veut pas, qui veut changer la constitution chez lui? C'est ça la difficulté de l'Union européenne et de l'Union africaine. Mmh. La même chose pour les droits de l'homme. Vous partez dans un pays, là, la vie du peuple ne représente rien, et, alors que dans d'autres, la vie est sacrée. Et quand ces gens-là se rencontrent, ils vont condamner comment celui qui est en train de tuer son peuple. Et c'est là la difficulté. Donc moi, je pense que celui qui a parlé de l'Union africaine, un syndicat des chefs d'État, il peut avoir raison. Mais pour ce qui est des résolutions de conflits, d'abord nous devons retenir que les conflits que nous avons en Afrique viennent des Occidentaux. Et les chefs d'État africains, ils sont instrumentalisés par les Occidentaux qui leur promettent soutien et quand on l'a sucé comme une orange plutôt, et après il n'y a plus de jus, on veut les chasser, et on crée ceci, on crée cela et on s'en débarrasse. Mais ils ne sont pas vraiment des chefs d'État, c'est qui nous pouvons compter. Et c'est pour cela que vous voyez qu'ils créent des conflits ici. Et après, l'Union africaine va aller arranger. Il va arranger quoi? Parce que tous ces présidents savent que s'il y a conflit en République démocratique du Congo, ce conflit ne vient pas des Africains parce que c'est pas les Rwanda et l'Ouganda qui pouvaient venir attaquer ce Congo. C'était un pays craint par tous les voisins. Mais quand ils ont décidé qu'il faut déstabiliser le Congo, les Rwandais sont devenus grands, on lui a donné tous les moyens, il est venu attaquer le Congo. Mais maintenant, les Africains vont venir résoudre quelle crise? Et les Africains vont résoudre les crises avec quelle morale, avec quelle éthique? Parce que nous, ici, en Afrique, la corruption, c'est normal. Et on n'a pas le sens de l'éthique et de la morale. Quelqu'un qui vient devant l'argent, lui-même il est pauvre, il vient d'un pays pauvre, d'un pays qui n'est même pas démocratique. Il vient là ici et vous aider à aller sur la voie démocratique. Moi je pense que l'Union africaine elle est encore loin de jouer son rôle, peut-être des générations à venir. Bah, battons-nous d'abord du point de vue mentalité, du point de vue éthique et morale. Et si vraiment nous arrivons à atteindre un certain niveau dans tous les pays, ce sont ces pays-là et ces hommes-là peut-être qui pourront faire l'Union africaine qui pourra se comparer avec l'Union européenne dans les jours à venir.
Merci beaucoup Félicien. Vous estimez que c'est une question de limitation, mais on n'a pas des mêmes valeurs. Et quand vous évoquez par exemple la résolution des crises politiques, vous estimez qu'on ne peut désigner un médiateur dans une crise si le médiateur lui-même vient d'un pays qui a des mêmes problèmes de gouvernance, les mêmes problèmes de démocratisation, alors il sera difficile qu'il puisse apporter des solutions dans les pays qui a les mêmes problèmes. Exact, voilà. Et vous estimez qu'il faut encore se battre pour des générations futures, hein, qui puissent avoir une Union africaine assez libre, démocratique, indépendante, et qui peut jouer son rôle dans la résolution des conflits et des crises, et particulièrement comme dans un pays comme la RDC. Étienne, vous êtes à Guémena, bonjour.
Oui, bonjour à Ado Okapi, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi qui nous suivent.
Et on vous écoute, Étienne.
Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Peut-être pour ne pas répéter ce que les amis ont dit, je pense que, hormis l'aspect de la dépendance de l'Union africaine sur le plan financier et économique, c'est comme mon prédécesseur venait de dire là, il est important qu'aujourd'hui, les dirigeants africains puissent redéfinir leur vision. Parce que, à mon humble avis, je constate qu'il y a absence d'une vision commune qu'il y a absence de confiance entre les dirigeants africains. Parce que, monsieur le journaliste, vous allez constater avec moi que tous les conflits, toute crise qui émaille la République démocratique du Congo et certains pays africains, ce sont des crises ou des conflits qui sont cautionnés par les présidents africains eux-mêmes. C'est comme vous allez comprendre qu'aujourd'hui, les tueries, les guerres qui sévissent à travers la RDC, mais il ne faut pas voiler la face pour citer les Rwanda et l'Ouganda. Et vous comprenez que même ce qui se passe au Soudan décide de consommer. Donc, c'est problème de manque de vision commune, absence de absence de confiance. Et c'est comme mon préfet a dit là, il va falloir que l'Union africaine puisse revoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Parce que comment voulez-vous quelqu'un qui sort dans un pays qui a des problèmes, qui a des crises. Nous l'avons constaté quand Eden Kodjo est venu, mais il n'a rien fait. Donc, parce que, comme Congolais, nous avons nous-mêmes constaté qu'il y avait même absence de leadership dans la gestion même des conflits, ce qui avait divisé la classe politique en RDC. Donc, c'est question que, pour que vraiment l'Union africaine puisse être vraiment église au milieu du village, il va falloir que le dirigeant africain puisse redéfinir la vision, voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire et aussi chercher à être autonome. Là, nous espérons que l'Union africaine peuve être à mesure de suivre tout ce qu'ils ont défini comme objectif. Mais sinon, rien ne va pas marcher et on ne va qu'assister à des fiascos dans toutes les résolutions et dans les objectifs assignés par l'Union africaine.
Mmh. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, rappelons que les points G des objectifs prévoient la non-ingérence d'un État membre dans les affaires intérieures d'un autre État. Il y a aussi les pactes de non-agression. Un État membre ne peut pas servir de base arrière d'une rébellion pour déstabiliser un autre État. Voilà, autant de questions. Et parce que vous avez centré votre intervention sur l'absence d'une vision commune et l'absence de confiance, et c'est tout ça qui doit être considéré dans la redéfinition des objectifs de la mission et de la vision de l'Union africaine. Merci beaucoup Étienne Malonga. Vous êtes au Bandundu, merci d'être avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour Pérou et bonjour à tout le monde qui nous suit à ce moment ici.
On vous écoute.
Ok, en tout cas, merci beaucoup. Moi, Pérou, vraiment, je veux m'excuser de s'adresser à mes compatriotes qui viennent d'intervenir. Nous, Africains, nous sommes prêts à condamner les effets. Mais nous, nous ne nous connaissons pas. Vous voyez, les compatriotes qui viennent de dire là-bas, oui, il a parlé de la confiance. C'est ce qui est dans nous, Africains. Je vais parler en général. Et l'Union africaine et d'autres regroupements africains. Vous voyez, moi d'abord, je peux féliciter les Africains. Parce que c'est suite à nous-mêmes que nous sommes, nous les Congolais, à cet état aujourd'hui. Hein? À la rencontre de San City là-bas, qui nous a produit 1 plus 5. C'était eux, nous-mêmes, Africains. Et vous voyez comment est-ce qu'on nous a aussi félicité très très bien. Alors, ce qui manque à présent, si Edem Kodjo, on peut le condamner qu'il a échoué, c'est à cause de nous-mêmes. Hein? Nous n'avons pas vraiment placé la confiance à Edem Kodjo. Or, Edem Kodjo était venu pour réaliser, pour répondre à la mission qui lui a été donnée à l'Union européenne. Mais arrivé ici, il a été déçu. Il a fait ce qu'il a fait, mais on a bafoué ça à nous-mêmes. Mais ce qu'il a fait, si on avait apporté, si on avait accompagné ça aux Congolais, s'il vous plaît, peut-être ça pouvait nous donner quelque chose de bon là, avant même.
Alors Malonga, vous estimez Malonga que
moi, je veux dire.
Ouais, vous estimez vous que le problème c'est la crise de confiance par rapport à la mission, parce que nous avons restreint ramené notre débat autour de l'intervention, les missions de l'Union africaine dans la résolution des crises dans notre pays. Et les cas d'Edem Kodjo qui a été évoqué, vous estimez que c'était une question de confiance? Si on lui aurait fait confiance, on n'aurait pas dû aujourd'hui qu'il a échoué. Vous avez rejoint notre ami tout à l'heure en évoquant les 1 plus 4, c'est une solution africaine. Et pour vous, les Africains, s'il y a une question de confiance, l'Union africaine peut faire plus. Est-ce que c'est le regard des Valérie autour du travail de l'Union africaine dans notre pays? Pensez-vous aujourd'hui, comme l'a évoqué tout à l'heure Étienne Malonga, que c'est une question de confiance? Si il y a une confiance mutuelle, il y a moyen qu'une mission de l'Union africaine puisse apporter des solutions aux crises politiques dans une situation comme la RDC par exemple. Valérie, bonjour et bienvenue.
Bonjour, bonjour à tout le monde. Bon, la confiance, je la vois un peu. Vous savez, la confiance ne se demande pas, mais on la séduit. Si vous, vous êtes, si moi je suis crédible vis-à-vis de vous, vous allez automatiquement me faire confiance. Mais papa, figurez-vous que depuis que l'Union, commençons d'abord par la genèse. L'Union africaine a eu naissance en 1963. Là, nous venions tous, les Africains, commencer à accéder aux indépendances. L'Angola, d'ailleurs, c'était vers 74. Alors, les dirigeants africains n'avaient pas encore de l'expérience. Contrairement à l'Union européenne, nous avons vu comment ils s'étaient engagés des réunions et des réunions après avoir mûri la bonne gouvernance et enfin ils sont allés vers l'Union européenne. Tel n'a pas été le cas. Avec quelle maturité ces chefs d'État, en 1960, tous des dictateurs, pratiquement, devraient nous diriger. C'est ainsi qu'au départ, l'Union africaine a commencé à tolérer des coups d'État, puisque de 1960 jusqu'en 1990, l'Afrique était sous le régime des coups d'État. Et qui organisait les coups d'État? C'était l'Europe, c'était la CIA. Quand on donne à quelqu'un des moyens, il vient, il renverse. Et c'est dans cet imbroglio que l'Union africaine a pu subsister. À partir de 1990, nous avons commencé des conférences nationales. Et ailleurs, on n'a même pas de conférence nationale souveraine, sans résultat, c'est-à-dire sans application des accords conclus. Là encore, l'Union africaine était toujours là. On a vu peut-être un succès au Burkina Faso, mais partout ici, c'était vraiment les désastres, en commençant par le Congo-Brazzaville, qui avait terminé sa conférence avant nous, mais qui a crépité les armes à telle enseigne qu'on a limogé Pascal Issouba, qui était même vainqueur après la conférence, et le tout-puissant Sassou Nguesso est rentré jusqu'à ce jour. Vous comprenez que dans tout ça, et les Sassou, ce sont les hommes forts de l'Union africaine, vous comprenez que dans tout ça, on n'a fait qu'échouer. Je voudrais répondre à Eric qui a dit que c'est un problème de moyens. Moi, je dis non. L'Union africaine a un problème d'abord des ressources humaines. Jusque-là, l'Union africaine n'a même pas de négociateurs. Lorsque nous sommes allés à la CENCO, tous les conférenciers se sont convaincus que Étienne Tshisekedi était crédible pour garantir tout le monde en occupant les postes de CENSA. Quittons maintenant le Congo, allons en Afrique. Est-ce que l'Union africaine a un monsieur crédible qu'il peut présenter, qui peut garantir tout le monde le succès en Afrique, en sorte que lorsque on voit sa présence, tout le monde peut se dire, voilà, il y aura équité, il y aura justice. Non. Pour qu'on arrive à réussir tous ces objectifs qui se sont fixés là, d'abord, quand nous sommes en diplomatie, nous devons nous dire que nous sommes en face des intérêts, des valeurs et des alliances. Mais lorsque, au niveau des intérêts, on n'a pas réussi à brasser d'abord le peuple, on n'a pas réussi à neutraliser les forces, parce que nous, les pro-physiciens, nous appelons équilibre un état pour lequel il n'y a aucune force qui prédomine sur l'autre. C'est-à-dire que la somme des forces extérieures qui s'appliquent si le système vaut zéro. Alors, mais puisqu'on accepte qu'il y ait d'autres états qui vont exercer des influences sur d'autres, qu'il y ait certains états qui vont exercer leur influence sur d'autres, donc il n'y aura pas équilibre. L'Union africaine réussira le jour où elle arrivera d'abord à marquer une différence entre les élections, la démocratie et la bonne gouvernance.
Merci.
Les élections, c'est-à-dire passer par des élections crédibles qui vont garantir tout le monde, c'est ça la source de la confiance, respecter les délais constitutionnels et passer à la bonne gouvernance, c'est-à-dire aller jusqu'à la justice distributive. Mais ce n'est pas normal. Hier, d'ailleurs, l'ambassadeur de l'Union africaine est passé à l'émission Dialogue entre les Congolais. Mm-hmm. Il a dit que l'Union africaine agit par principe de subsidiarité. Ce sont les États des CER, les communautés économiques régionales qui agissent et l'Union européenne vient alors en appui. Mais vous comprenez que jusque-là, ce n'est pas un organe coercitif. Alors, maintenant, puisque nous sommes à ce stade, c'est-à-dire que chaque groupement, Afrique australe, Afrique centrale, Afrique australe, vont se réunir et chercher comment se battre. Et dans tout ça, il n'y aura pas réussite. Et surtout que c'est l'Afrique centrale qui est l'Afrique la plus médiocre en termes du respect des droits de l'homme. Donc, pour moi, en tant que Congolais, l'Union africaine a échoué. Mais comme elle existe déjà, il ne reste plus qu'à se remettre au niveau des principes démocratiques, aller jusqu'à la justice.
Voilà, c'est pour cela qu'on a évoqué tout à l'heure. Oui, en une seconde, oui.
Et de Yaya Djamé, je dois lui répondre, mais c'est faux. Hissène Habré a été jugé suite à la pression de la Belgique, ce n'était pas l'Union européenne. Yaya Djamé, c'est la CDAO qui s'est imposée, et surtout le président Macky Sall, parce que la rébellion des Casamance s'appuyait sur la Gambie en tant que base arrière. C'est ainsi que le Sénégal a fait tout intérêt à piloter
et ce n'était pas son état. Voilà, merci beaucoup, ingénieur Valérie. C'était pas une question de l'Union africaine, mais vous avez estimé que s'il n'y a pas la crédibilité des facilitateurs, ça sera difficile à l'Union africaine de pouvoir résoudre les crises. Et en évoquant ce que l'ambassadeur a dit autour des subsidiarités, que l'Union africaine vient en appui des initiatives des autres organisations régionales, et ça rejoint notre débat la semaine passée où on insistait beaucoup sur la réforme. Franck, merci d'être avec nous. Vous disiez tout à l'heure sur la page Facebook que le peuple congolais doit militer pour se libérer de tout système lui privant de l'intégralité de ses droits et prérogatives citoyennes. Mais quand on voit cette lutte, elle ressort dans le principe même de l'Union africaine. Alors comment peut-elle être aujourd'hui à côté d'un pays comme la RDC pour aider la population à sortir de ces systèmes-là? Franck, bonjour.
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour aux amis qui se sont déjà exprimés, bonjour à ceux qui vont parler. Je crois que la bonne gouvernance et la bonne politique, on ne la fait pas seulement à base de phrases et de textes qu'on ne sait pas soi-même respecter. Nous savons que l'Union africaine, c'est notre union parce que nous sommes tous africains, elle est régie à base de textes, mais la question est de savoir si tous les textes qui régissent les pays de l'Union africaine sont correctement respectés partout et presque avec la même philosophie et déontologie. Parce que si nous devons voir d'abord le pays africain dans l'intégralité telle qu'il fonctionne, il y a une certaine complexité de la politique interne et externe mise en place. Cette complexité fait qu'il y a des différentes conceptions de la notion de la démocratie, de la notion de l'alternance au pouvoir, si bien que cela conduit aussi à des différentes manières et perceptions de garder nos relations avec les pays occidentaux qui nous avaient colonisés. Donc à partir de ces aspects complexes, c'est un peu difficile pour que la politique de l'Union africaine soit vraiment homogène sur certaines lignes telles que nous le voyons avec l'Union européenne ici. Puis par rapport à la RDC, c'est un pays qui a sa position stratégique, géographique, historique dans cette Union africaine. Mais c'est avec regret, on doit le dire, que la RDC n'arrive pas à bien jouer son rôle par rapport à sa position géographique, par rapport à sa place. Alors, on ne peut plus revenir sur les 32 ans de Mobutu. Nous avons été sous Mobutu 32 ans durant. Mobutu a eu de la chance pour tout faire, mais il n'a pas doté le pays des infrastructures proportionnelles dont il aurait besoin. Alors, les 20 ans de l'AFDL qui venaient de se passer ne nous ont pas non plus aidés à atteindre l'état de ces progrès dont on avait besoin. Alors, pour maintenant revenir sur l'Union africaine en soi, son implication par rapport à certains conflits, c'est pas du tout manifeste. Mais, monsieur le journaliste, comment nous allons voiler de face nos citoyens africains pour ne pas dire ce que nous ne voulons pas, ce que nous ne voulons pas? On peut raisonner par analogie. Est-ce qu'un papa, qui n'est pas un bon papa pour ses enfants, qui ne sait pas respecter ses enfants, qui ne respecte pas les droits de ses enfants, qui ne pourvoit pas aux besoins de ses enfants dans sa propre famille, est-ce qu'il le serait vraiment un bon papa si on lui confiait une telle responsabilité au niveau d'une association? La réponse peut être claire. Qui composent l'Union africaine, ce sont dans la plupart des cas ces chefs d'État qui ne respectent pas les textes chez eux. Alors quelqu'un qui ne respecte pas d'abord sa propre constitution, est-ce qu'il serait vraiment soucieux de voir un autre ne pas respecter la constitution de son pays? Donc c'est parfois avec regret qu'on doit le dire que l'Union africaine est seulement parfois comprise comme un cercle d'amis dictateurs, donc des amis qui veulent se maintenir au pouvoir pendant autant de décennies.
Merci.
Alors, si l'un d'entre eux est en train de traverser un moment de crise, les autres viennent à son secours pour l'aider à s'accrocher au pouvoir.
Merci.
Mais est-ce que l'Union africaine a déjà mis en place une politique qui serait bénéfique pour tous les Africains? Moi, personnellement, je reste encore pessimiste si je dois voir le nombre d'Africains qui cherchent à traverser les frontières pour atteindre l'Europe. S'ils avaient l'essentiel chez eux, on n'aurait pas assisté à tout ces drames-là.
Et surtout,
alors,
actuellement, on voit
ça
aussi...
Ça dépend maintenant de la manière d'aborder. Il y en a qui pensent que l'Union africaine fait plus, oui. Oui.
Non seulement qu'ils sont nombreux à vouloir rejoindre l'Europe, mais ils sont nombreux aussi qui meurent. Hein. On voit les drames sur la Méditerranée, les nombres d'Africains qui sont en train de chercher l'Europe, de chercher le bien-être en Europe. Et ça aussi, c'est déjà un signe de ce qui doit interpeller l'Union africaine dans la définition de politique à l'intérieur de pays. Il y a Vincent Kabeya qui s'inquiète sur la page Facebook qui estime que non, les présidents africains devaient être des modèles, et comme ça, ces modèles pourraient être transmis au sein de l'organisation. Alain Bolo Dua, pour lui, l'Union africaine est caractérisée par une défaillance fonctionnelle, l'influence diplomatique et politique des États membres et les caractères autoritaristes des chefs d'État semblent dominer sur des valeurs cardinales qui ont milité en faveur de la création de cette organisation continentale. Dimi Futila estime que l'Union africaine ne doit pas seulement se limiter à une instance de déclaration, car la solution à différentes crises qui traversent l'Afrique n'est pas seulement une question diplomatique, mais aussi une section des actions concrètes sur les plans disciplinaires et militaires. Ouseni Mustapha pense que l'Union africaine n'est pas à la hauteur de sa tâche par la situation, par exemple, de ce qui s'est passé au Congo avec la désignation du facilitateur Edem Kodjo qui a été récusé. On a été obligé de convoquer un deuxième dialogue. Pensez-vous qu'à ce niveau-là, on peut donner les crédits à l'organisation? Louis Mutanga, pour lui, l'Union africaine n'est plus en mesure de fonctionner normalement et atteindre ses objectifs. En plus, beaucoup des chefs d'État africains sont en train de retoucher leur constitution devant les regards impuissants de l'Union africaine. Elle est allée plus loin jusqu'à vouloir même obstruer le fonctionnement de la Cour pénale internationale. Mais comment voudrez-vous, dans ces cas, qu'elle soit en mesure de régler les crises à travers les continents? Dieudonné, merci d'être avec nous. Vous êtes à Walikale. Bonjour, Dieudonné. Dieudonné, vous êtes avec nous. Bonjour. Oui, on vous écoute, Dieudonné.
Merci. Et je ne vais pas revenir de ce que viennent de dire mes prédécesseurs, mais sinon, je vais un peu soulever la responsabilité de l'Union africaine par rapport à notre pays, la République démocratique du Congo. Messieurs les journalistes, si nous regardons bien ce qui se passe dans notre pays par rapport à la responsabilité de l'Union africaine, je trouve que, moi-même qui vous parle, et je pense qu'il y a d'autres Congolais qui seront toujours d'accord avec moi, que nous, Congolais, nous ne trouvons pas vraiment l'importance de l'Union africaine. Et, or que l'Union africaine est là, nous sommes africains, tel qu'avait dit mon prédécesseur, et moi qui vous parle, je suis africain, je ne vais pas être pessimiste tout à fait par rapport à l'Union africaine, mais sinon, je vais soulever quelques cas que nous sommes en train de détester par rapport à la responsabilité de l'Union africaine.
Allez-y,
sinon,
rapidement.
Nous avons confiance aujourd'hui à l'Union européenne par rapport à l'Union africaine. Pourquoi? Quand les Congolais souffrent aujourd'hui, je dirais c'est par rapport à l'Union africaine. Parce que s'il faut crier, on lance des cris, mais l'Union africaine va venir nous dire, voilà, voici, il faut faire ceci, rester encore calme, et il faut toujours nous dire de la politique est là que nous sommes tous en train de voir. Or que l'Union africaine, l'Union européenne, disons, est en train vraiment de démontrer les choses à la réalité, est en train de montrer les choses à sa place. Donc, je dirais que si nous regardons aujourd'hui les anciens présidents de notre continent ici, l'Afrique. Donc, tous, je dirais, vraiment, vous allez m'excuser du terme, je dirais, tous sont des dictateurs, parce qu'ils ne veulent même pas quitter le pouvoir, et qu'ils sont présidents, les anciens présidents. Mmh. Et ce qui fait défaut, c'est la démocratie.
Alors, on a encore deux personnes en ligne, il faut leur permettre de s'exprimer un peu rapidement. Et là, vous revenez à ce que les autres ont dit, hein, l'attitude de dirigeants africains, elle-même détermine ce qui peut être l'efficacité des lignes africaines. Rapidement, Pascal, vous êtes à Caminant, en 45 secondes de votre intervention, Pascal, bonjour.
Bonjour Pierrot, merci de m'avoir associé à cet échange d'idées. Je ne voulais pas revenir sur les choses que mes prédécesseurs ont dit, mais aujourd'hui, Pierrot, nous sommes au 21e siècle. L'Union africaine a changé sa politique. Tout État africain aujourd'hui vise l'émergence et le développement. Et on ne peut pas parler du développement et de l'émergence sans la démocratie. On ne peut pas parler de la démocratie sans l'alternance. Mm-hmm. On ne peut pas non plus parler de l'alternance sans les élections. C'est comme ça que l'Union africaine doit chercher à recadrer sa politique. En tout cas, aider les États membres à se focaliser sur l'alternance.
L'alternance. Et d'ailleurs, parce que là, vous sortez entrecoupé, Pascal. vous estimez que la question de démocratie, alternance, élection devait être aujourd'hui au centre des actions de l'Union africaine. Marcel, vous êtes à Kananga, dommage pour le temps, mais ça peut vous permettre aussi de mettre un point de vue autour de cette question, du regard que vous portez sur l'Union africaine. Rapidement, Marcel. Marcel, vous êtes avec nous? Dommage, on a perdu Marcel. Vous avez été nombreux à vous exprimer. Je rappelle que les débats se poursuivent sur les réseaux sociaux, notamment la page Facebook des paroles aux auditeurs. Merci à vous tous qui avez été en contact avec nous et ceux qui nous ont donné de leur temps pour écouter ces magazines. Merci à toute l'équipe des productions. Nico Kalamba a été à la réalisation, J.R. Lungembo au standard et à la coordination, Jean-Claude Siala à la mise en onde. Et Pierrot Elamenji vous a présenté ces magazines sous la supervision de Martin Sebujangue. On se retrouve demain pour un autre numéro des Paroles aux auditeurs. Mais le programme se poursuit sur les antennes des Radio Capi et notamment sur www.radiocapi.net. Merci, au revoir.